La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jevenot.
Bonjour à toutes et à tous. Quand la mer est tranquille, chaque bateau a un bon capitaine, dit le proverbe suédois. Et c'est sur les bords de la Baltique que nous débarquons ce matin, à Stockholm, chez Amandine Pekel. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien aujourd'hui, à Stockholm.
Vous êtes conseillère économique et commerciale à l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation. Alors tout de suite, ça va faire du bien, ça va pousser un cocorico, Amandine. Un Suédois sur 10 a des origines wallonnes, vous confirmez ?
Effectivement, il y a très peu de Wallons qui sont au courant de cette migration wallonne en Suède et de ses descendants wallons qui sont tellement fiers d'être wallons.
L'histoire des fameuses forges wallonnes d'Uppsala et l'émigration belge en Suède au XVIIe siècle. On en parlera tout à l'heure plus en détail. À mes côtés en studio, un jeune wallon qui rentre de Suède. Bonjour, Luca Pavone.
Bonjour Adrien et bonjour Amandine.
Bonjour.
Il est étudiant en droit pénal, formateur numérique à l'ULB, tuteur informatique à l'UMONS. Vous êtes aussi lauréat d'un ticket pour l'Europe, Luca. C'est quoi un ticket pour l'Europe ?
Un ticket pour l'Europe, c'est une chance incroyable qui m'a été accordée par la RTBF de voyager dans un pays européen dont je ne connais rien, dont je n'ai aucune information sur mes destinations et sur ce que je vais y faire.
C'est un peu comme rendez-vous en terre inconnue. C'est-à-dire que quand vous avez été choisi, il y a eu un grand casting à la fin de l'an dernier, ouvert aux jeunes de tous horizons. Vous avez postulé, vous avez été choisi. Alors, vous savez que vous partez dans un pays européen, mais c'est seulement à l'aéroport que vous ouvrez une enveloppe, c'est comme ça, et que vous trouvez la destination ?
J'arrive à l'aéroport, première découverte, on a une valise sur deux qui est prise. On a dû préparer une valise pour des temps très froids, en tout cas pour moins 15, moins 20, ou alors une valise de 5 à 10 degrés. Et là, je vois la valise bleue, la valise froide, et je me dis, oh mon Dieu, moins 15, moins 20, ça va taper dur. Donc ça va être rigolo. Donc déjà là, j'étais très enjoué. Puis on m'amène au hall, évidemment, on me filme pour avoir la réaction la plus naturelle possible. Et puis là, je deviens un gosse émerveilleux devant le tableau puisque je vois 10h, je fais 10h, 10h, 9h50, 9h55, 10h, j'en vois 3, je vois Montréal et je vois Stockholm. Et Stockholm coïncide avec le numéro. Et je suis très, très heureux. Je pense que ça se voit sur les images. Je suis vraiment très, très, très heureux.
Alors les images, vous les verrez ce soir sur Typique. C'est une série qui est diffusée aussi sur OVIO. C'est la nouvelle série de la RTBF à l'approche des élections européennes. Donc oui, jeune Belge qui découvre 8 pays européens, dont Luca Pavone qui découvre la Suède. La Suède, on va la décliner aussi en musique tout au long de ce brunch dominical.
Les Belges du bout du monde.
Le groupe Europe, évidemment, avec une chanson qui date de 1986. Vous aviez quel âge, Amandine, en 1986 ?
Eh bien, 1986, c'est l'année de ma naissance. Donc voilà, je n'ai pas de souvenir de cette chanson-là.
Oui,
mais j'étais là.
Mais c'est un bon cru, du coup, hein, 1986. Votre année de naissance, Amandine Pekel, qui est notre Belge du bout du monde à Stockholm. Countdown, c'est le décompte, évidemment, pour les élections européennes. C'est pour dans 2 mois et une raouette, le dimanche 9 juin prochain. Alors, on va faire plus ample connaissance, si vous voulez bien, Amandine. Vous êtes née en 1986, du côté de Tenneville. Donc, vous êtes une Ardennaise.
Voilà, le cœur de l'Ardenne, effectivement, oui.
polyglotte. Votre cursus scolaire est impressionnant. Alors là, moi qui aime bien les voyages, quand je vois toutes vos étapes, je suis assez jaloux. Vous avez commencé dans le nord du pays d'abord, à la KU Leuven.
Mais oui, exactement. J'appelle ça aussi ma première expérience internationale, d'une certaine manière, parce que ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même culture, c'est la ville. Donc voilà, c'était une première découverte, en tout cas un premier voyage en étudiant là-bas, oui.
Études de Sciences Po et de droit. Ensuite, un Erasmus à Barcelone. Et alors, Vienne pour un post-master à l'Académie diplomatique.
Voilà, exactement. Donc c'était l'expatriation qui commençait d'une certaine manière déjà avec le cursus scolaire et qui permettait d'apprendre les langues dans la foulée, en fait.
Après un crochet par Hong Kong, vous prenez votre poste à Stockholm pendant l'été 2018, une ville que vous aviez déjà arpentée en city trip, hein, comme étudiante, je crois.
Voilà, et une ville et une région que je voulais découvrir, qui m'intéressait déjà comme étudiante pour venir faire une année ici, ça a été à Vienne finalement, mais je ne savais pas effectivement que j'allais revenir en poste 10 ans plus tard, donc une belle surprise pour moi.
Et ça va faire 6 ans que vous êtes là-bas. Quand on apprend le néerlandais, comme vous l'avez fait à la KUL, c'est plus facile d'apprendre le suédois, de parler suédois après ?
Oui, oui, on ressent beaucoup de mots gratuits, hein, donc l'allemand également, ça a aidé énormément sur le suédois qui est une langue voilà, qui s'apprend quand même assez rapidement et c'est très apprécié par les Suédois, même s'ils sont évidemment tous anglophones dans les faits.
Alors revenons maintenant à notre Lucas, jeune Montois, je crois, qui vient de passer une semaine en Suède. Vous êtes rentré il y a 3 jours. Hein.
Ouais, ouais.
Vous avez été élevé dans la tolérance, c'est ce que j'ai lu sur votre CV. Vous adorez découvrir l'autre, voyager. Vous avez d'ailleurs fait en mars dernier un voyage de 3 semaines au Japon.
C'est ça, exactement.
Ouais, ouais. Vous êtes assez social, vous aimez bouger. Quand vous avez vu la Suède, ça représentait quoi à vos yeux ? C'est une espèce d'idéal, de modèle, le modèle démocratique, peut-être économique suédois ?
C'est vrai que les pays du Nord attirent très souvent beaucoup de personnes. J'étais moi-même très attiré par les pays, enfin je le suis toujours en fait, parce que je trouve que c'est quand même un modèle démocratique très puissant, ne serait-ce que dans la consécration qu'on peut retrouver dans les droits des travailleurs, qui sont différents par rapport à, je veux dire, au centre de l'Europe ou de notre côté. Je trouve que les gens sont très sympathiques, taciturne parfois, mais tout de même extrêmement sympathique. On sent que dès qu'il y a une envie de parler ou autre, ils sont à l'aise, ils sont enjoués à l'idée de communiquer. C'est très agréable. Ça ressemble un petit peu au Japon, finalement. C'est-à-dire qu'il y a le côté harmonie, ordre, on se respecte l'un l'autre, mais c'est pas forcément contre le fait d'aller discuter un petit peu aussi avec d'autres personnes.
Oui. Confirmation, Amandine Pekel.
Oui, oui, donc c'est intéressant d'entendre le témoignage de Lucas parce que ça me fait beaucoup penser à tous ces étudiants qui suivent le programme Explore avec le soutien de la WEX et qui viennent en Suède. C'est vraiment cette image positive de la Suède, parfois avec un petit peu un a priori sur à quel point est-ce que les Suédois vont être ouverts à quelqu'un qui vient de l'étranger. Et au final, une très belle surprise parce que effectivement, et ça je l'entends aussi dans les étudiants, les Suédois ont finalement eu une curiosité pour eux et ont vraiment été très sympathique avec les visiteurs. Donc oui, ça colle.
Alors vous avez travaillé sur plusieurs thématiques pendant ce voyage. Hein. Ce n'était pas pour aller faire la tournée des bars. Hein. Non, vous avez ramené des reportages sur les thématiques environnement, nouvelles technologies et enseignement supérieur. C'est vous qui les avez choisis parce que c'est votre marotte. Hein. L'enseignement supérieur, déjà vous êtes étudiant, travailleur dans une université. Et à Stockholm, vous avez rencontré un alter ego ou une alter ego
Alter ego, je sais pas, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelques étudiants, non sans peine, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est un peu taciturne, donc ça n'a pas été super simple d'avoir les images et d'interroger quelques étudiants.
Surtout avec la caméra. Hein.
C'est ça, en fait, j'allais dire, c'est que c'est la caméra qui vient un peu s'imposer. Tout,
ouais, ouais.
S'imposer. Mais derrière, oui, très gentil, j'ai pu apprendre quelques informations, notamment sur la vie étudiante, sur le coût de la vie étudiante. C'est, je pense, la première chose qu'on aimerait savoir quand on est étudiant, si c'est possible ou pas, finalement, de partir là-bas.
C'est cher quand même.
Bah, ça dépend, en fait.
Faut pas fumer, il faut pas boire d'alcool.
Voilà.
Ça aide déjà.
Côté, oui. Forcément, quand on ne consomme pas, ça fait moins cher. Quoi.
C'est sûr.
Mais ils ont quand même pas mal d'aides que je trouve très intéressantes, qui sont différentes de chez nous. Quand on est étudiant suédois, en tout cas, y a des aides mensuelles. Quand on est étudiant Erasmus, il y a moins d'aides, forcément. Mm-hmm. Mais elles sont quand même présentes, et ça, j'ai trouvé ça intéressant.
Ouais. Vous avez aussi visité la vieille ville de Stockholm. Magnifique.
Ah, c'est très beau. Hein. L'architecture est magnifique. Les couleurs, c'est pas souvent qu'on voit du orange, du vert, du rose. Ouais. C'est très joli.
Ouais, Stockholm, c'est une île, hein, une espèce de Venise du Nord, une autre Venise du Nord, avec des canaux enjambés par une cinquantaine de ponts, comme autant de traits d'union entre la nature, la culture, la tradition, la modernité. C'est une ville fascinante pour vous aussi, Amandine.
Oui, c'est une ville avec une très très belle qualité de vie. On parlait des couleurs, mais il y a le bleu de l'eau, le vert de la nature qui sont vraiment dominants. Et puis, ce n'est pas que le visuel, c'est aussi une qualité de vie des habitants. On essaye vraiment de protéger sa vie privée en dehors du boulot. On essaie de garder cet équilibre. Et ça, ça a été un vrai contraste, certainement, en arrivant en direct de Hong Kong, qui, je pense, sur ce plan-là, est quand même le contraire absolu de Stockholm.
Ouais, on peut se déplacer à vélo dans la ville, en bateau aussi?
Oui, voilà. Enfin, tous les jours, je viens à l'ambassade en vélo sans problème. C'est très sécurisé, comme des milliers de Stockholmois. J'utilise ou le vélo ou les transports en commun. Et dans les transports communs, il y a effectivement les bateaux aussi.
Mmh. Vous avez fait une sortie en mer. Vous nous raconterez tout à l'heure, Lucas, comment ça s'est passé. Là, on va écouter un groupe suédois qui suit la rivière, Likili, avec ce hit de 2011.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Plus de 275 millions de streams sur Spotify pour ce morceau « I Follow River » qui a pris de l'ampleur grâce au remix de Magician, un DJ belge. Et il s'est classé premier dans les charts en Europe. C'est encore une success story belgo-suédoise. Voilà qui ravit Amandine Pekel, diplomate belge en poste à Stockholm. Alors, Amandine, quelles ont été vos premières impressions en venant travailler dès 2018 là-bas en Suède ?
Alors oui, c'était un vrai plaisir d'arriver à Stockholm. C'est une ville un petit peu cité idéale, vraiment au cœur de la nature, alors qu'on est au cœur de la ville, très très belle, très historique. Il y a eu un accueil quand même très clair, il y a un intérêt pour des habitants, des Suédois, pour les gens qui viennent de l'étranger, ça, il y a cette ouverture. Et puis alors un autre gros contraste avec Hong Kong où j'étais juste avant, c'était le fait que vraiment la qualité de vie, les gens vraiment ne vivaient pas pour travailler mais travaillaient pour vivre. Ça c'était les premières impressions quand je suis arrivée.
Alors en Suède, vous le disiez, hein, la nature est reine et la liberté est sa princesse. À propos de princesse, dans les Belges du bout du monde, nous ne pouvons pas manquer d'évoquer la figure d'Astrid. Astrid de Suède, qui fut la quatrième reine des Belges, épouse de Léopold III, très aimée des Belges. Elle disparut beaucoup trop jeune dans un accident de voiture en Suisse le 29 août 1935. C'était la maman des rois Baudouin et Albert. Alors chez vous en Suède, c'est la princesse Victoria, je crois, qui sera amenée à monter sur le trône, Amandine, dans quelques années.
Voilà, et ça sera la première reine sur le trône suédois depuis déjà le XVIIe siècle. Donc voilà, ça fait longtemps qu'ils attendent une reine ici en Suède.
Alors on parle de ces proximités, hein, de nos monarchies, proximité aussi de nos cultures, la culture wallonne très présente là-bas grâce aux forgerons. Et là, on remonte encore plus loin au début du XVIIe, je crois.
Effectivement, quand les Wallons ont débarqué en Suède, qui à l'époque aussi couvrait la Finlande, donc il y en a aussi quelques-uns encore en Finlande, pour amener un know-how, donc c'est un petit peu les ingénieurs, les PhD de l'époque qui venaient, qui ont finalement été les pères de l'industrie suédoise en amenant leurs neurones dans la sidérurgie, oui, effectivement. C'était il y a 400 ans, mais ils s'en souviennent encore très bien ici en Suède, et il y a énormément de descendants wallons, et même ceux qui ne le sont pas se le disent, s'inventent des origines wallonnes, parce que l'image du travailleur wallon était de quelqu'un, effectivement, de très travailleur, donc ça change un petit peu, c'est rafraîchissant pour nous d'être associés comme ça à des valeurs si positives ici en Suède.
D'ailleurs, les noms de famille, il y en a 600 d'origine wallonne. C'est pas l'histoire ancienne, hein, avoir aujourd'hui encore un patronyme wallon. Ben, je crois que c'est un bon filon pour entrer en contact avec les Suédois.
Oui, bien sûr, je l'utilise tout le temps dans mon action. Et oui, avoir des origines wallonnes, c'est presque mieux que d'avoir des origines vikings. Hein, donc on en profite et c'est une image positive qui nous ouvre des portes, qui nous fait des contacts un peu partout en Suède et à la capitale. Donc je pense que c'est assez unique au monde où le mot wallonie résonne d'une telle manière à l'étranger.
Il reste 23 bruks. Alors, vous pouvez expliquer ce que sont les bruks, Amandine ?
On pourrait le traduire par village, et donc les villages wallons, c'était ces villages où il y avait les forges wallonnes, mais c'est plus qu'un village, c'était finalement l'ancêtre de l'usine, et de l'usine sidérurgique qui était au cœur de la campagne ici en Suède, autour de Stockholm. En particulier, oui, effectivement, il y a encore ces villages aujourd'hui, et même la semaine wallonne, chaque été dans ces villages, où on célèbre l'apport des wallons à la Suède.
Je vous ai remis en ligne l'émission réalisée sur place en 1999, il y a 25 ans, sur ces villages wallons du côté d'Uppsala. C'est à revoir sur lapremière.be. Et vous verrez que le fondateur des mines s'appelait Louis de Geer. Et incroyable mais vrai, il existe toujours, Louis de Geer. 4 siècles plus tard, il est toujours là. Enfin, c'est son descendant, mais il porte le même nom. C'est le 13e Louis de Geer.
Exactement. Donc, je peux dire que hier, j'ai reçu un email de Louis de Geer, mais effectivement, le 14e du nom, qui est encore bien vivant et toujours si fier de ses origines, en effet.
Oui, il est agriculteur aujourd'hui. Allez, on écoute maintenant un chanteur belge qui nous représentera au prochain concours Eurovision de la chanson en Suède. Is there something real in the skylight? Is there something good in the holy light? Will we ever sleep under moonlight? We could keep on trying till the day we die. All my friends been gone for a long time. Skyline Musty qui sera le 7 mai à Malmö pour porter bien haut les couleurs de la Belgique lors du prochain concours de la chanson l'Eurovision. On est nous avec Luca Pavone, il a gagné le casting de ce ticket pour l'Europe, c'est un des 8 jeunes partis dans une grande ville européenne, Stockholm, et un peu partout d'ailleurs en Suède. Alors Stockholm, le jour 2, vous avez fait une sortie en mer avec des chercheurs pour enquêter sur la biodiversité marine, comment ça s'est passé ?
Alors déjà, ça a commencé par un long trajet en voiture parce qu'il faut descendre jusqu'au sud de la Suède. J'ai le mal des transports. Donc j'avais beaucoup d'appréhension parce que je ne sais pas où je vais, mais je vois qu'on se dirige vers la mer. Donc je me dis, un trajet en bateau, j'ai un petit peu peur. Par chance, c'est un bateau scientifique, donc il est stabilisé. Et la mer Baltique était extrêmement calme, donc tout allait très bien. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai rencontré Michael, qui était scientifique sur ce bateau et au laboratoire ASCO, qu'on a trouvé un petit peu plus loin après un petit trajet en mer.
D'accord, on verra les images ce soir sur Tipeee, et c'est déjà aussi sur Ovio. Vous tapez un ticket pour l'Europe. Vous êtes allé ensuite dans le Nord, à Kiruna, visiter des mines, on en parlera tout à l'heure. Mais là, j'ai un clin d'œil de la journaliste qui vous a guidé pendant votre périple suédois, Carlotta Morteo.
Salut Lucas, ravi de t'entendre dans l'émission nous raconter ton périple en Suède. Encore bravo pour avoir mené les échanges avec nos amis suédois, en anglais, à chaud, sur des sujets que tu ne connaissais pas auparavant. C'est pas facile, je reste très admirative de ton aisance avec les gens et face à la caméra. Je retiens de toi une grande curiosité, un bel esprit d'analyse, une soif de justesse aussi. Je me souviens de notre grande conversation après qu'on soit descendu à moins 800 mètres sous terre dans la plus grande mine de fer d'Europe, une mine moderne où les conditions de travail sont excellentes et où un nouveau gisement a été découvert qui est censé permettre de réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Chine dans notre approvisionnement en métaux et en terres rares, tous ces éléments indispensables à la transition énergétique. Mais comme tu l'as vu de tes propres yeux, une mine, ça impacte forcément l'environnement aux alentours et ici la culture des Samis, les autochtones du Grand Nord que tu as rencontrés. Et je dois dire qu'en tant que journaliste, je suis contente que tu aies pu toucher du doigt la complexité du monde, les contradictions inhérentes à nos modes de vie et ces dilemmes qui sont si difficiles à résoudre politiquement, mais intimement aussi. Je me souviendrai toujours de notre sauna du dernier soir, un sauna au feu de bois, au milieu de la toundra arctique, il faisait moins 26 degrés ce soir-là. Si on avait été suédois, on aurait été tout nu, mais pudeur oblige, on n'a pas fait tomber les serviettes, quoique... Toute l'équipe a testé le chaud-froid dans les règles de l'art. Tout le monde s'est roulé dans la neige, sauf toi. Mais je suis sûre et certaine que tu le feras la prochaine fois. Allez, bon dimanche à tous les Belges du bout du monde et à bientôt en Suède. Ciao.
Ciao Carlotta et merci pour ce message en provenance du Grand Nord. Message qui nous apprend que Lucas n'a pas plongé tout nu dans la neige. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Lucas ?
Ah non, mais non. Alors déjà, quelle surprise. Merci beaucoup Carlotta pour ce gentil mot. Et non, je n'ai pas... non, parce qu'en fait, je reprends les cours et je me suis dit la différence de température 70 degrés, moins 26 d'un coup, là va être un peu fatale. Et je n'ai pas sauté le pas. C'est vrai qu'elle m'a dit que je le regretterais. Carlotta, si tu m'écoutes, je regrette un petit peu, tu avais raison, je m'en excuse.
Mais il faudra retourner du coup.
Bien sûr.
Voilà. Vous, Amandine, c'est le genre de plan que vous aimez ? Vous roulez dans la neige ?
Oui, c'est parfois difficile de convaincre ceux qui n'ont pas encore essayé, mais généralement, essayer, c'est se convertir. Parce que oui, il fait froid, mais il ne fait pas si froid que ça dans l'eau. L'eau ne peut pas être à température négative, donc a priori, on survit. Et surtout, on parlait de retour au cours, ça renforce l'immunité. Donc a priori, on est moins malade.
Ça fouette les sangs, hein, c'est sûr. Allez, après la pub, rencontre avec nos amis les Samis. Nous ferons du chien de traîneau et de la poésie aussi au pays du soleil de minuit.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jovenot.
Merci de nous écouter en direct le dimanche matin ou quand vous voulez en balado-diffusion grâce au podcast dispo sur Ovio et sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors les Belges du bout du monde sont aujourd'hui en Suède avec Lucas Pavon, lauréat d'un ticket pour l'Europe, et Amandine Pekel, conseillère économique et commerciale à l'AWEX. On les retrouve après une pincée de musique et de poésie signée de l'auteur suédois Arthur Lundqvist. Il y a une joie sauvage à être en vie, il y a une ivresse de l'existence. Chaque journée est une amante pour mon désir infini. Mon sang est un océan salé qui tonne dans les tempêtes de la vie.
It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone. And so peaceful until you fall in love. Zing boom, the sky up above. Zing boom, it's caving in. Been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry. You cross your heart and hope to die. Till it's over.
Ah, on parlait des tempêtes de la vie, là on est carrément dans les montagnes russes des émotions avec le calme, It's All So Quiet, et puis elle s'excite à un moment donné un peu plus fort. Est-ce que vous avez reconnu cette chanson ?
Alors, je ne sais pas si j'ai l'autrice ou la chanteuse originale, mais c'est Björk, non ?
Et
c'est une reprise.
Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est la version originale, c'est mais Björk originale. A repris. Bravo, bravo, Lucas. C'est Betty Hutton, mais la VO d'elle a été reprise par Björk, et c'est okay. La pub d'un grand magasin suédois qui vend des meubles.
Oui.
On ne va pas dire le nom.
Non.
Pas besoin de pub.
Non. Hein.
Par contre, moi, j'aimerais qu'on fasse un peu de pub, Amandine, pour les trains de nuit, parce que ça, c'est quand même the pied. Et écologiquement, c'est super sympa aussi pour visiter le Grand Nord. Vous l'avez pris, tous les deux, je crois, le train de nuit vers Kiruna. D'abord, Amandine, qu'est-ce que ça vous a fait, ce train de nuit vers Kiruna, Amandine ?
On peut, en théorie, du coup, s'endormir, partir le soir de Stockholm et se réveiller dans le Grand Nord, au milieu de nulle part, quelques heures plus tard. Et c'est encore mieux si le train a du retard, ce qu'il a souvent en hiver, puisqu'on est à l'intérieur, au chaud, on profite des paysages enneigés. Ils sont obligés de rembourser aussi le ticket au bout d'un certain nombre d'heures de retard. Donc vraiment, il n'y a rien à redire sur cette option-là. Oui.
Oui, au frais de la princesse alors, du coup, ça c'est génial. La princesse Astrid, évidemment. Train de nuit vers Kiruna ou vers Copenhague aussi.
Effectivement, et c'est une solution qui est de plus en plus utilisée aussi par les Suédois, puisqu'ils sont de moins en moins à l'aise de prendre de l'avion pour le transport au sein de la Suède. Donc on voit que les chiffres se descendent, et ce n'est pas uniquement à cause de la pandémie. Et c'est une très bonne alternative pour arriver, effectivement, oui, se réveiller à Copenhague en étant parti le soir de Stockholm, tout à fait reposé, avec une douche et un petit déjeuner buffet. Donc c'est une très belle option. Oui.
Oui, et votre impression à vous, Lucas, dans le train de nuit ?
Le train de nuit, c'était la première fois de ma vie. Alors c'est assez, alors encore une fois, hein, mal des transports oblige, inquiétude, mais finalement ça va. J'étais le seul du groupe qui n'avait pas l'après-coup. Après le train, souvent on a cette impression de ballottement, alors qu'on est sorti du train et ça dure à peu près 6 heures. Je ne l'avais pas du tout, étonnamment. Mais sinon, le train de nuit, c'est rigolo. On est servi, vraiment. Il y a beaucoup d'agents du transport qui sont dans le train, qui naviguent. Vous avez besoin de quelque chose, qui sont très sympathiques. Et puis bah, évidemment, on réveille les paysages. Ou pas, parce que moi, on a eu un petit truc, c'est qu'il y a un tronçon du côté de Kiruna, justement, qui est abîmé, ce qui fait que le train ne pouvait pas continuer sa route. Donc on a dû changer. Alors normalement, on se réveille vers 7h et quelques, on arrive à 9h, à 9h13. Nous, on a dû se réveiller à 4h30 du matin, parce qu'il fallait changer à 4h45. Donc c'était pas le plus agréable.
En pyjama sur le quai, je vois le genre, oui, c'est pas...
Non,
oui,
parce que justement, en pyjama, on peut pas trop sortir par sa température. Mais oui, changer de train, heureusement, l'autre train, c'était très drôle puisque déjà on pouvait parler, donc c'est beaucoup plus agréable, il n'y a pas tout le monde qui dort. J'ai des bons souvenirs de bonnes tranches de rire, de fou rire avec la cadreuse que je salue, qui s'appelle Charline. On a dérangé quelques passagers, quelques figurants pourrait-on dire.
Un micro-train quoi du coup.
Écoutez, un peu plus petit, mais très sympa quand même puisque les paysages, et vu que le soleil se lève au moment où on est seulement en train d'arriver, on découvre la nature qui est merveilleuse.
Mmh, du côté de Kiruna. Mmh. Alors, Carlotta l'évoquait tout à l'heure. À Kiruna, vous avez aussi rencontré les représentants de la communauté Sami qui sont opposés aux mines de cuivre. Mmh. C'est l'éternel débat entre le développement économique et l'écologie. Au début de l'année dernière, le géant minier suédois LKAB annonçait avoir découvert le plus grand gisement de terres rares d'Europe à Kiruna. Vous confirmez, hein, Amandine, vous qui êtes sur place, ce gisement doit être exploité dans les prochaines années et ses composants sont indispensables à la fabrication des batteries, entre autres pour les éoliennes aussi.
Et là, on a le dilemme entre une écologie à échelle globale et donc décarboniser l'industrie et les mines, etc., et le transport, et à la fois ça et la protection de l'environnement local, que ce soit l'environnement culturel, l'environnement vert, des SAM. Donc, effectivement, il y a un dilemme entre le local et le global, là-haut dans le nord.
Oui. La question divise et elle inquiète, hein, particulièrement, vous l'avez dit, les Samis, ce peuple autochtone du Grand Nord, dont l'activité ancestrale, l'élevage de rennes, est directement menacée, comme vous allez l'entendre dans ce reportage réalisé sur place par Carlotta Morteo, la journaliste qui vous accompagnait.
À la surface, dans la taïga enneigée, rien ne laisse deviner la richesse du sous-sol. Au détour d'un sentier, le bruit de la foreuse détonne dans ce bois de bouleau et d'épicéa où des prélèvements sont en cours pour récolter des échantillons de roches.
Hey, hey, Kali.
Trevlita treffa.
Le gisement se trouve pile poil sur le dernier passage de transhumance des reines de Karin Warford. Elle est membre de la communauté Sami de Gabna, le village autochtone le plus impacté par ce projet. C'est dans leur ADN. Les reines suivent un sentier qu'ils ont emprunté depuis des milliers d'années. Il y a cette énorme mine, puis la ville et la station de ski. Là derrière, il ne reste qu'un passage très étroit où nous devons passer avec les reines pour atteindre les pâturages d'hiver. C'est déjà difficile à traverser aujourd'hui à cause du tourisme, des chiens de traîneau, des skieurs, des motoneiges. Et maintenant, cette nouvelle mine va couper cette route.
Sur les 20 000 Samis qui vivent en Laponie suédoise, seuls 10% vivent du commerce de la viande de renne. Mais la réniculture est au cœur de leur identité, de leurs fêtes et de leur rapport à la nature.
Cette annonce de Elkab a été un choc pour nous. La manière de présenter la chose aussi, comme une solution pour la transition énergétique de l'Union européenne. Alors que l'extraction de fer et de terres rares n'a rien de vert. Ça contribue fortement au changement climatique, vu la pollution que ça génère et les quantités d'énergie nécessaires.
Le Parlement Sami devra être consulté sur ce nouveau projet. Mais puisque la Suède n'a pas ratifié la Convention de l'ONU sur les droits des peuples indigènes, son avis ne sera pas contraignant.
On a été déplacés de nos terres, de force, depuis des années. Ça n'affecte pas que les reines, ça impacte aussi notre mode de vie, notre culture et notre langue, qui est très liée à la nature. Si on ne peut plus aller dans ces endroits, mes enfants n'auront pas la possibilité d'apprendre. C'est une violation des droits de l'homme qui a lieu en ce moment. Nous sommes le dernier peuple autochtone d'Europe.
Karin Alford, porte-parole de la communauté Sami, traduite par Anne-Sophie Breudanx. Une rencontre qui vous a beaucoup touché, Lucas.
Oui, parce que en plus, Karin, moi, j'ai pu la rencontrer dans un moment d'entre-deux. C'est-à-dire que ce jour-là se tenait une audience. Je n'en parlerai pas plus, on verra dans l'émission. Mais on l'a vue à la pause de midi et elle était, quand je l'ai rencontrée, quand on a échangé quelques questions, totalement abattue par la situation. Ça se voyait sur son visage, je pense que ça se verra aussi au reportage. Et en fait, de base, voir ça, ça m'a touché et son discours m'a touché d'autant plus.
Parce que vous êtes très branché sur l'écologie et la protection de l'environnement. Vous êtes descendu sous terre, vous êtes allé dans la mine?
C'est ça, exactement, oui, oui. En fait, c'est quelque chose de très important pour moi et je pense pour beaucoup d'autres jeunes, l'écologie, l'environnement. Et d'un autre côté, en fait, c'est un véritable dilemme. Et comme l'expliquait très bien Carlotta tantôt, on a pu en discuter très longuement. J'en ai pleuré, hein, je vais être honnête. Ça n'est pas pris en caméra, donc je peux l'expliquer aussi. Et ce choc de se dire, d'un côté, on en a besoin, et de l'autre, il faut préserver le local et ben voilà, l'écologie, c'est un choc je veux dire, intérieur à devoir gérer.
Oui, sacré dilemme. Vous verrez les images ce soir. Un ticket pour l'Europe, c'est sur Tipeee, c'est déjà sur Ovio aussi. On va marquer une petite pause avec un morceau qui met de bonne humeur. Ça va vous consoler, ça va vous donner envie aussi de siffler sous la douche. C'est Young Folks par Peter, Björn and John, des artistes suédois.
Retrouvez les photos et les vidéos des Belges du bout du monde
sur nos pages Instagram, hashtag La Première et Adrien Jovenot.
Encore un hit suédois dans les Belges du bout du monde, c'était Young Folks par Peter, Björn and John, un groupe rock alternatif de Stockholm. Nous y sommes avec Amandine Pekel, conseillère économique commerciale à l'OEX, et Luca Pavone, lauréat d'un ticket pour l'Europe. Alors, un des mythes fondateurs européens, c'est aussi le concours Eurovision de la chanson. Un petit blind test, Amandine et Luca. Quel groupe a gagné ce concours il y a tout juste 40 ans, en 1974 ? Alors, Amandine, Lucas, une idée ? Lucas, non ?
Non, je suis très mauvais en blind test.
Et vous, Amandine ?
Ça commence par A, peut-être ?
Oui.
Est-ce que maintenant, ils ne sont pas sous forme d'hologramme dans leur concert ?
Bravo, bravo.
40 ans plus tard.
Exactement. C'était ABBA avec encore un lien entre la Suède et la Belgique, puisqu'ils chantaient Waterloo. Vous avez visité le musée ABBA, Amandine, là-bas, à Stockholm ?
Oui, je conseille à tout le monde, ceux qui étaient déjà là quand ils faisaient la première chanson et la nouvelle génération, c'est un très bon musée interactif.
Je me suis laissé dire que vous étiez guide de la ville de Stockholm, c'est juste ?
Effectivement, on a eu ici aussi la pandémie, même si les conséquences étaient moins fortes que dans le reste de l'Europe. Et donc, on avait pu beaucoup de délégations effectivement, qui venaient de Wallonie. J'en ai profité pour prendre des cours de guide de la ville pour en apprendre un peu plus, déjà pour améliorer mon suédois et en apprendre un peu plus sur l'histoire de la ville et de la Suède. C'était pendant les longues soirées d'hiver pendant la pandémie.
Alors vous guidez en français ou en suédois ?
En français, néerlandais, anglais, mais de manière totalement bénévole, mais oui, de temps en temps.
Vous pourriez le faire en espagnol aussi, vous êtes polyglotte, c'est terrible ça. Et quand vous avez un peu de temps libre, quels sont vos loisirs sur place, Amandine ?
Ah mais j'essaie de profiter au maximum de la lumière et des extérieurs, évidemment, surtout après un hiver. Donc, je passe beaucoup de temps en randonnée dans les parcs nationaux qui sont tout autour de la ville de Stockholm. J'ai commencé le patin sur les lacs gelés cette année, qui est une très bonne année à patin à glace. Évidemment, le traditionnel bain d'hiver et sauna. Et puis, j'essaie de maintenir mon suédois dans un club de lecture, une grande tradition suédoise avec les chorales.
À propos de lecture, nous avons un petit message pour vous, Luca Pavone. C'est votre gourou favori.
Ah,
ah là là. Un certain Gorian Delpature.
Ah
voilà. Et avec lui, forcément, on parlera un petit peu littérature. Mm-hmm. Après les salutations d'usage, Gorian.
Salut Lucas, c'est Gorian Delpature, ton journaliste chevelu favori. En écoutant ce que tu viens de raconter à Adrien, je suis ravi d'apprendre que ton voyage dans le Nord, en Suède, s'est bien passé. Je me rappelle, quand je t'ai croisé à Reyers, il y a quelques mois, je venais parler de l'assassinat de Kennedy dans le JT, et toi, tu passais le casting pour une mystérieuse émission qui allait emmener de jeunes Belges au bout du monde, et non seulement tu as été pris, ce dont je n'ai pas douté un instant, mais en plus, la Suède, un pays génial pour ses écrivains. Il y a les polars suédois, la Stieg Larsson, hein, évidemment, tout le monde connaît la série des Millenniums. Mais moi, je voudrais te conseiller, et à Adrien, et à tous les auditeurs des Belges du bout du monde, un auteur suédois moins connu. Il s'appelle Patrick Svensson, il a une cinquantaine d'années maintenant, et il a publié, il y a quelques années, un essai passionnant sur les anguilles, figure-toi. Ça s'appelle « L'évangile des anguilles », et c'est un livre passionnant sur l'animal le plus mystérieux de la planète. Et oui, encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment les anguilles se reproduisent. On sait juste qu'elles naissent sous une forme dans la mer des Sargasses, qu'elles vont grandir ailleurs et puis qu'elles reviennent mourir sous une autre forme dans la mer des Sargasses, là où elles sont nées. C'est le dernier grand mystère de la nature et c'est un livre passionnant qui raconte plein d'histoires sur les anguilles. On apprend par exemple que Freud a commencé sa carrière en essayant de chercher le sexe des anguilles, en les disséquant, ben, il ne l'a jamais trouvé, ce qui a peut-être bien orienté sa carrière future. Enfin bref, c'est passionnant et c'est suédois, l'évangile des anguilles de Patrick Svensson. Sur ce, Lucas, Adrien, bon dimanche à vous et bon dimanche à tous les Belges du bout du monde.
Merci beaucoup Gorian pour ton gentil message. C'est retenu, j'essaierai de percer le mystère des anguilles. Alors.
Oui, avec Patrick Svensson et son petit évangile des anguilles. Très sympa ce message, effectivement, de Gorian Delpature, que vous pouvez écouter tous les midis dans Entrée sans frapper. Il est régulièrement aux côtés de Jérôme Collin pour parler bouquin. À propos de livres, quel serait votre livre de chevet là-bas à Stockholm, Amandine Pekel?
Alors, je recommande toujours à mes visiteurs un livre qui n'a pas été traduit en français, mais qui est hilarant, c'est « The Almost Nearly Perfect People » de Michael Booth. Les gens, les presque parfaits. Et ça parle des aspects un petit peu moins parfaits des pays nordiques. Ça donne aussi une idée des différences entre les pays nordiques et c'est hilarant. Mais il met vraiment le doigt sur la vérité. Il est anglais, mais il vit au Danemark. Et j'ai reconnu beaucoup de choses de son livre en vivant ici.
Par exemple, le Danemark qui serait le pays le plus heureux du monde, mais qui en même temps bat le record de prise d'antidépresseurs. Hein, donc, cherchez l'erreur avec vous et ce bouquin de Michael Booth. Vous venez de donner une conférence assez originale là-bas à Stockholm, Amandine.
J'ai participé à une conférence où les Suédois se demandaient où en est leur image dans le monde, avec un peu d'inquiétude. Ils ont l'impression que leur image pâtit un petit peu ces derniers mois dans le monde. Et je venais pour les rassurer, pour leur dire qu'on les aimait toujours autant. Et d'ailleurs, à l'AWEX, on a décidé que cette année serait l'année des pays nordiques, parce qu'on pense qu'il y a vraiment des belles opportunités dans ces pays-là. Donc voilà, j'ai été les rassurer à Stockholm.
Dans cette émission, on aime bien pulvériser les clichés. Le Wallon, qui souffre souvent d'une image de paresseux, en Suède, c'est tout le contraire. Vous le disiez, on est quelque part des espèces de vikings.
Voilà, c'est vraiment le travailleur qui a aidé la Suède. C'est une image très, très positive. C'est quelqu'un aussi qui a un savoir technique. C'est un pays d'ingénieurs. Donc oui, c'est rafraîchissant, surtout pour quelqu'un qui a grandi dans les années 90 en Wallonie et qui a vu plutôt son industrie décliner. Ça fait beaucoup de bien, oui. Ouais.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, Lucas, de cette immersion d'une semaine là-bas en Suède?
Je retiens que la Suède, c'est un pays qui m'a émerveillé, que j'avais très envie de visiter. Et pour le coup, la nature a une place qui est prépondérante. Ça se ressent dans tout, en fait.
Vous avez fait du chien de traîneau, par exemple.
Oui.
On entend un peu ici l'ambiance de ces chiens qui aboient avant qu'on donne le go et puis après qui se taisent. Et on a ce son du traîneau qui glisse. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, au plus profond de vous-même?
Une sorte de plénitude, je ne sais pas expliquer. C'était... j'ai rigolé, premièrement, parce que c'est vrai que la transition d'un coup du brouhaha et du silence quasiment total, parce qu'on est comme ça perdu au milieu de la toundra, il n'y a pas un bruit, pas un chat, rien qui rôde, c'était assez époustouflant. Oui, très calme, apaisé.
Ouais. Vous avez eu l'occasion de tester le fameux Ice Hotel. Vous avez dormi dans un igloo sur des blocs de glace?
Je vais briser le mythe, mais non. L'Ice Hotel, il a une partie où on peut dormir qui est tout à fait banale, c'est des cabanons, hein. Bon, c'est quand même dans la neige, donc c'est sympathique. Et il y a des chambres qui sont faites entièrement de glace, sculptées par des artistes à travers le monde. On a des Belges notamment qui ont sculpté diverses chambres, j'espère qu'elles seront dans les images. Et ces chambres sont à louer, mais on n'a pas dormi dedans. On a dormi dans un cabanon plutôt classique.
Vous avez voulu économiser le budget de la RTBF, et je vous remercie.
Je n'en sais rien.
Ce qui va nous permettre de tenir peut-être jusqu'au printemps. Et vous-même, vous l'avez testé, l'Ice Hotel ou le Tree Hotel, Amandine?
Oui, alors il faut avoir le meilleur des deux mondes. Hein. Donc le Ice Hotel, c'est très très beau à voir, mais c'est très cher et c'est très froid, comme le nom l'indique. Je recommande d'y aller, mais par contre pour dormir, oui, le Tree Hotel, qui est en fait constitué de cabanes dans les arbres, littéralement, des cabanes qui sont très design, d'ailleurs, c'est des vraies œuvres d'art. Oui, ça, c'est une des expériences hôtelières les meilleures que j'ai pu trouver dans le monde. Donc, c'est à recommander, effectivement.
Ouais. Et quand on est dans ces cabanes, on est bien placé pour voir les aurores boréales. Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez pu apercevoir une aurore?
Malheureusement, c'était trop couvert. Désolé, Amandine, de vous avoir coupé.
Non, non, mais effectivement, j'ai eu la chance, en allant à Laponie, de le voir là-haut. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une année, depuis 2 ans, on est dans une période très active et dont les... Elles sont descendues jusque Stockholm l'année passée, cette année aussi, donc on ne doit pas aller tout au nord pour les voir en ce moment.
Nous allons nous regarder ce qui va se passer devant nous. Dans 10 jours, le 17 avril, Luca Pavone, vous allez être reçu au Parlement européen avec les 7 autres lauréats du Ticket pour l'Europe. Et vous allez être invité à faire une proposition au Parlement. Ça va faire l'objet d'ailleurs d'un QR spécial, le débat. Vous savez déjà, Lucas, ce que vous allez proposer au commissaire européen ?
Alors, je pense que j'ai déjà ma petite idée, oui. Je ne sais pas exactement si je peux en parler tout de suite, parce que je pense que je dois garder la surprise aussi pour l'émission. Mais j'ai mon idée et elle reflète finalement ce qui s'est déroulé ces 5 jours-là en Suède et ce que j'aimerais qu'ils s'en suivent, en tout cas ce que je pourrais proposer.
Ils maîtrisent déjà bien le langage diplomatique, hein, Mandine, hein, vous ne trouvez pas?
La OEX recrute. Hein,
c'est intéressant, je note.
Il est doué pour filer comme ça entre les questions, et très bien. Et ben, c'est pas mal, je note, hein, il ne va pas lâcher le morceau, hein, c'est normal. Par contre, on se retrouvera le 26 mai, et là vous n'allez pas y échapper, oui. Lucas, pour une échappée belge à vélo entre les deux capitales européennes, Bruxelles et Strasbourg. Vous avez intérêt à vous entraîner, hein, Lucas.
C'est prévu.
C'est prévu. Ça,
en fait, c'est vraiment prévu. C'est-à-dire qu'on doit commencer la salle avec mon compagnon et je compte me concentrer sur des exercices de cardio parce que je n'en ai pas du tout. Je suis même en déconditionnement physique. Si je dois faire... Alors, ce n'est pas le programme, ce qui est quand même une surprise, mais s'il y a quand même une longue partie en vélo, il va falloir les assumer. Alors,
on va faire une escale à Arlon, une autre à Metz et puis l'arrivée... à Strasbourg. Si vous êtes de passage, Amandine, on vous réserve une petite place dans notre peloton, d'accord ?
Qu'on passe l'Ardenne, oui.
On fera une halte à Tenneville, à la barrière. Merci en tout cas à Paul Michel qui réalisait cette émission, mise en image par Léa Defour sur les réseaux sociaux des Belges du bout du monde, racontée par Christian Van Delois sur lapremière.be, une production de Françoise Pastel. La semaine prochaine, nous serons en Pologne avec Fanny, une de vos consoeurs d'un ticket pour l'Europe. Je vous souhaite un très bon dimanche à Stockholm, Amandine.
Bon dimanche à vous aussi, en Belgique.
Bon dimanche, Amandine. Merci beaucoup. Au revoir.
Excellent dimanche à toutes et tous. Dans un instant sur la première, Arnaud Reussen vous attend au tournant.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Podcast.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.